Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, cette semaine face au présent, mais ce n'est pas un thème ni une semaine tout à fait comme les autres. Matière à penser, face au présent, c'est le thème retenu pour l'édition 2019 de La Nuit des Idées, organisée à l'initiative de l'Institut français ce jeudi 31 janvier 2019. Pour cette occasion, nous vous proposons, dans l'équipe de Matière à penser, une semaine spéciale avec mes acolytes, Patrick Boucheron, René Friedman, Antoine Garapon et Dominique Rousset. Une semaine spéciale, chacun à sa manière, pour penser le thème « Face au présent ». Et vous pourrez également participer à cette nuit des idées en retrouvant parmi d'autres lieux les studios de France Culture à la Bibliothèque Nationale de France à Paris le 31 janvier de 18h à minuit. Matière à penser, la première rencontre, donc face au présent, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Barbara Cassin, philosophe, tout récemment élue membre de l'Académie française et qui vient également de recevoir la médaille d'or du CNRS. Bonsoir Barbara Cassin.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir pour parler du présent. Je voulais vous demander, Barbara Cassin, quand on dit face au présent, il me semble qu'il y a un piège dans lequel vous nous permettez et même nous obligez de ne pas tomber. C'est le piège de croire que le présent, ce sont des faits bruts, et qu'on va en parler là tous les deux, et puis tout le monde cette semaine, et le 31 janvier, comme si le présent c'était des faits, alors que ce que vous nous permettez et même nous imposez de comprendre, c'est que ces faits sont déjà tissés de mots, que ces faits c'est la manière d'en parler, qu'il n'y a pas de fait pour les humains sans langage, et même qu'en un certain sens, c'est la thèse de votre dernier livre, enfin de toute votre œuvre, mais aussi de ce dernier livre, qu'en dire c'est vraiment faire, c'est vraiment votre thèse que le langage non seulement parle du présent, mais le fabrique, le fait qu'il n'y a pas de présent pour vous brut, c'est le langage, c'est la parole humaine qui fait l'événement, le présent.
Oui, le présent existe quand même. C'est-à-dire que justement, c'est ça.
C'est-à-dire
ce croisement de mots fabriquant des choses et de choses faisant naître des mots.
C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des événements, il y a des objets, il y a un état des choses. Et il y a la manière dont les humains en parlent et le présent, ce sont les deux inextricablement.
Oui, je pense. Et je pense surtout, bon, très clairement, que les discours sont des faits du monde, et qu'ils, d'une certaine manière, ils informent le monde.
Mais est-ce que
ils le forment.
Est-ce que pour vous, Barbara Cassin, donc est-ce qu'il y a un accès au monde avant le langage ? Par exemple, prenons ce mot, les actualités, les nouvelles, comme on dit, les informations. Au fond, elles nous donnent les faits, mais nous les recevons toujours à travers la manière dont ils nous sont donnés, à travers un certain découpage, un certain angle, un certain langage malgré tout. Et ça a donné lieu à une théorie critique dont votre œuvre est en partie l'héritière, je dis bien en partie, c'est-à-dire de dire « regardons comment le langage nous fait voir le monde ».
Oui, tout à fait d'accord, c'est comme ça que ça se passe, y compris dans la plus haute philosophie. C'est-à-dire dès Parménide, ça se passe comme ça.
Mais pourtant, il y a aussi des philosophes qui ont dit il y a les choses, et ce n'est pas le langage qui fabrique les choses, au contraire, il doit se soumettre aux choses, il doit les connaître, et la chose est la norme du langage, c'est cette norme qu'on appelle la vérité.
Mm-hmm. C'est une thèse, en effet, philosophiquement courante.
Mais vous la refusez, au fond. Mais,
c'est-à-dire que je ne refuse rien. Je dis que ça n'est pas comme ça seulement, et que ça n'est pas l'unique description possible, et que ce n'est peut-être pas, même pas la meilleure possible. Je ne dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'elle a marché. Je dis que c'est quelque chose qui a bien marché.
Mais la science, quand elle dit « la Terre tourne autour du Soleil », et non pas le contraire, est-ce que pour vous, elle dit un état de choses, et finalement, le fait que ce soit le langage de la science qui nous fasse voir ce phénomène est secondaire, ou bien est-ce que c'est quand même un acte de langage, cet énoncé « la Terre tourne autour du Soleil » ?
C'est un acte de langage et un énoncé vrai dans l'état actuel de la science. Et probablement dans tous les états imaginables aujourd'hui de la science. imaginable par nous, aujourd'hui.
Alors, c'est très intéressant, Barbara Cassin, que vous résistiez à l'endroit où je veux vous attirer.
Je ne veux pas dire, Frédéric Borms.
Vous sentez le piège?
Oui, c'est vrai.
Vous sentez le piège? Non, mais vous sentez le piège inverse. C'est-à-dire, vous sentez qu'en un certain sens, je voulais vous amener à cette question de la critique de la vérité dans la philosophie contemporaine, dans votre propre travail, qui remonte aux sophistes, à la sophistique grecque, et même un peu avant,
oui.
Et qui nous dit, au fond, comme beaucoup de théories, mais vous le dites très fortement, que la vérité dont parlent Platon, Aristote et d'autres, ça n'existe pas, c'est le langage, et qui aujourd'hui fait face à un adversaire aussi redoutable au moins que la dogmatique classique, c'est les fake news, les doctrinaires du mensonge, du complot, qui eux nous disent il n'y a pas de vérité, tout est fake. Et comment est-ce que vous, théoricienne critique du langage, défenseur de la sophistique, vous affrontez les théoriciens des fake news?
Je crois que les fake news, c'est véritablement du faux prouvable.
Mmh.
Alors pas toujours. Et évidemment que tout est dans les zones de marge et c'est même là que les problèmes se situent. Mais quand vous me parlez de théorie du complot, etc., on voit bien que ces fake news sont, par exemple, l'exemple premier qui a été donné, c'est la vérité alternative.
Une conseillère de Donald Trump,
voilà,
qui a revendiqué l'idée de faits alternatifs. Vous, journaliste, vous dites qu'il n'y avait personne à l'inauguration de Donald Trump.
Il y avait moins de monde, il y en a plus. Ah ben, vous nous montrez des photos? Ah ben, ça fait rien, non, il y en a plus.
Mm-hmm.
Bon. Et c'est plus c'est une contre-vérité visible et massive, plus c'est du fake. Bon.
Donc en réalité, on peut discerner dans les actes de langage ce qui est quand même un mensonge flagrant et ce qui est une création humaine qui va construire un accord, un consensus et un monde habitable. Enfin.
Mais je crois que c'est très grave de tout mélanger. Et je crois qu'il faut essayer... Enfin, pour moi, le dernier mot ne reviendrait pas à la vérité,
mmh.
et surtout pas avec un grand V, mais il reviendrait plutôt au jugement et à l'esprit critique.
Alors, le jugement et l'esprit critique comme moyen de discerner dans les énoncés humains, Barbara Cassin, entre les énoncés qui sont des mensonges, ça reste prouvable, comme vous venez de le dire, des faux prouvables,
oui.
et quels autres énoncés? Alors, le statut de nos autres énoncés, parce que tout votre livre, là, je pars de la fin de votre livre, où justement
oui.
vous affrontez les fake news, tout votre livre donne des exemples de ces phrases humaines qui créent des événements, qui agissent.
Oui, eh bien, elles ne sont pas fake, elles. C'est-à-dire, quand on dit « la majorité, c'est vous
mm-hmm. »,
on dit quelque chose qui fait quelque chose, qui vous incite à penser quelque chose, à savoir que vous faites partie du peuple, de la majorité, etc. Vous,
mm-hmm.
vous, déictique, hein, on vous a montré du doigt.
Ceux à qui je parle
voilà,
ici.
Voilà, ceux à qui je parle ici, la majorité, c'est vous. Ou alors,
vous prenez comme
je
exemple,
vous ai compris.
Je vous ai compris, ou bien le Yes We Can de Barack Obama,
oui.
ou aussi des énoncés dans des circonstances parfois tragiques, par exemple la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Vous dites que quand l'évêque Desmond Tutu dit nous sommes en train de créer le peuple d'Afrique du Sud,
oui.
par ces mots-là,
oui.
il le crée effectivement.
Oui, là encore, je mettrai pas tout sur le même plan. C'est pas tout à fait la même chose de dire comme un slogan « la majorité, c'est vous ». Ça n'est pas non plus la même chose de dire « yes, we can » pour inciter que « yes, effectivement, we can ». Et ça passe de quelque chose d'incitatif
mm-hmm.
à quelque chose de performatif. C'est-à-dire que ça se prouve heureux et non pas seulement vrai. C'est réussi.
C'est...
Et ça a marché. Yes ? Ah bah oui, on a en effet canné, si j'ose dire.
Oui, alors en effet, Barbara Cassin, dans le livre, vous rappelez qu'il y a pour vous trois types d'énoncés de langage. Ceux
oui.
qui disent des états de choses, finalement, parler de quelque chose. Ceux qui cherchent à convaincre, parler à quelqu'un.
Oui.
Et ceux qui créent quelque chose tout court, parler, vous dites, pour parler. Donc
oui.
par exemple, Obama, yes we can, c'est rhétorique, c'est parler à quelqu'un, il veut s'adresser à son...
Eh bien, c'est la frange entre la rhétorique à un mm-hmm. instant donné. C'est-à-dire qu'on ne parle pas tout court,
mm-hmm.
on parle toujours de à et à un moment donné. Donc, à un moment donné, inventant yes we can, c'était quasi rhétorique.
D'accord.
Et l'instant d'après, quand il a été élu, ça s'est prouvé performatif. Mais ça peut bouger, le statut d'une phrase.
D'accord, donc le « yes, we can » de Barack Obama, soyons précis, Barbara Cassin, parce qu'en fait, on est au cœur de l'actualité.
C'est très difficile.
Parce qu'aujourd'hui, il se passe tellement de choses dans le langage qu'on s'y perd.
Je suis complètement d'accord, Frédéric Vance.
Donc, « yes, we can », donc à un moment donné, il cherche à convaincre ses électeurs futurs.
Et lui aussi.
Et au moment où ça marche, parce que le « yes, we can » a créé un état de fait.
Voilà.
Il a créé Barack Obama président des États-Unis.
Voilà, parce que de toute façon, oui, c'est lui dedans. Hein. Quand je dis « nous », il y a moi dedans. Bon, donc dans le week-end, voilà, ça s'est prouvé heureux.
Mais alors, qu'est-ce qui va distinguer Barbara Cassin, le Yes Weekend de Barack Obama, du Je suis un génie tranquille de Donald Trump, ou bien du Non, je n'ai jamais cherché à construire une tour à Moscou, et du même Donald Trump, ou bien il y avait mon inauguration était. Qu'est-ce qui va changer entre le Yes Weekend, qui est une invention et qui crée un monde, et le mensonge pur et simple?
Dans un cas comme dans l'autre, c'est d'abord quelque chose qui passe par votre bouche. Mmh. C'est d'abord du flatus vocis. Bon. Donc, à ce stade, il n'y a pas de différence.
À ce stade, toutes les paroles humaines se valent.
Oui. Alors, ensuite, il s'agit de savoir, rétroactivement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que ça a marché? Ou pas? Est-ce que Trump est un génie? Est-ce que... et pour qui?
Mais en tout cas...
Et pour qui?
Si on s'en tient au seul plan de l'efficacité, on pourrait craindre qu'ils aient eu chacun leur efficacité. Ils ont tous les deux été élus. Si la preuve est l'efficacité, est-ce que ça suffira à distinguer le « yes, we can » performatif qui produit son effet et puis le « je suis un génie » ?
Moi, bon, vous me posez des questions trop difficiles.
Mais
bon,
c'est
des vraies questions. Mais bon, je pourrais répondre grossièrement et toujours de la même manière en disant, mais c'est une question de jugement. Mmh. Et la politique est une question de jugement. Et jugez donc. Et je repartirai, si vous voulez, de Protagoras, puisqu'on parlait de sophistique à un moment donné. Je repartirai de Protagoras qui dit, et toi, il te faut supporter d'être mesure. Mmh. Bon, ça, c'est ma phrase de fond. Mmh. Et toi, il te faut supporter d'être mesure.
Toi, être humain. L'homme, mesure
toi,
de toute
parlant.
Chose. Toi, homme parlant.
Oui.
C'est toi qui as les critères pour juger les autres hommes parlants. Les humains doivent se...
Et qui a le critère pour juger les phrases? Qui a le critère pour juger tout court? Et là, je reprendrai aussi simultanément le rapport à Hannah Arendt qui dit « Serait-ce que le jugement est une faculté politique ?» Réponse, oui. Et j'irai même à lire La crise de la culture en disant « Et même le jugement de goût est une faculté politique. » Donc si vous trouvez Trump dégueulasse, ben, vous jugez peut-être très bien. Bon.
Donc c'est une question de jugement critique qui va diviser les humains, forcément. Mais Barbara Cassin, vous venez de citer Hannah Arendt.
Oui.
À la fin de votre livre, et ça m'a surpris, même si je sais que vous avez traduit Hannah Arendt, ça fait partie des auteurs qui vous orientent, autant que les Grecs, les sophistes et beaucoup d'autres. Jacques Lacan, que vous citez aussi, que vous retrouvez dans ce dernier livre. Vous citez un texte d'Hannah Arendt qui est très important aujourd'hui, souvent cité sur les fake news, où elle dit « dans politique, il y a des jugements ». Et puis, il y a des faits.
Oui.
Donc, il y a quand même des vérités de faits. Et Barack Obama, aussi bien que Trump, ne peuvent pas dire n'importe quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais dans le « yes, we can » et dans le « je suis un génie », là, on est dans l'opinion, dans le jugement. Là, vous retrouvez vous-même l'idée qu'il y a des vérités de faits, finalement.
Je trouve qu'elle est... je crois conclure en disant qu'elle est là une maman rassurante.
Elle veut rassurer.
Elle veut rassurer et qu'elle s'auto-rassure. Je suis absolument pas sûre d'être convaincue.
Alors pourquoi est-ce que vous y faites retour malgré tout, Barbara Cassin, quand...
Mais parce que j'ai peur qu'on puisse pas s'en passer. J'ai peur qu'on ne puisse pas se passer de maman rassurante.
Mais la vérité des faits, pour vous, c'est un jeu de langage, comme disent certains, de plus. C'est quelque chose qui quand même appelle un type de jugement de type objectif, scientifique, et pas simplement une opinion.
Oui,
donc on peut quand même se fonder en commun là-dessus.
Oui, je suis complètement d'accord pour distinguer entre vérité de fait et opinion. Mmh. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des cas complètement purs. C'est ça que je veux dire.
Voilà. D'ailleurs, Michel Serres disait, je crois, le seul mythe pur, c'est le mythe de la science pure.
Mais voilà.
Donc même la science est aussi traversée de jugement, finalement.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi des vérités de fait.
Absolument. Mais on peut prendre de l'autre côté Lacan, puisque vous parliez de Lacan.
Oui.
Lacan qui dit, Vérité avec un petit E avalé.
Vérité.
Vérité. Variété. Variété. Variété.
Et pourquoi est-ce qu'il faut, comme ça, diminuer le prestige de la vérité, la faire redescendre aussi dans le langage humain, Barbara Cassin?
À mes yeux, c'est parce que dès qu'on lui met une majuscule, on est en grand danger. On est dans un danger, à mon avis, plus grave que l'autre, qui est un danger...
Plus grave que les fake news elles-mêmes? Enfin, que le...
Plus grave que la variation des vérités.
Que le relativisme absolu?
Non, je ne parle pas de relativisme absolu, jamais. Parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je parle de relativisme conséquent.
D'accord.
Je pense que le relativisme absolu, mais ça on pourra distinguer entre les deux, mais que le relativisme absolu est un mythe analogue à celui de la vérité, et voilà,
c'est
avec
deux,
un grand V.
Les deux mythes.
Oui, oui. Mais en revanche, dire qu'il y a du plus vrai pour, à un moment donné, Ça me paraît imparable, et pour le meilleur et pour le pire.
D'accord, donc la vérité reste une norme, une orientation, quelque chose comme ça, mais n'est pas un absolu avec une majuscule, sinon on tomberait dans le dogmatisme, qui est finalement l'un des deux risques politiques et théoriques pour les humains. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait cette manipulation par le mensonge, d'un autre côté, une sorte de vérité qui deviendrait tyrannique.
Oui, la manipulation par le mensonge est pas loin de la vérité totalitaire. Dire que les deux choses se rejoignent très bien.
Et entre les deux, il y a une troisième position qui est celle d'une discussion humaine qui construit ces critères.
D'une discussion humaine et de un peu plus de travail et d'intelligence, un peu moins d'imposition.
C'est là, Barbara Cassin, qu'on retrouve peut-être tout le reste de votre travail dans ce livre. Alors, je suis parti délibérément de la fin parce qu'on est face au présent. Et
oui.
On sent votre inquiétude, d'ailleurs, face au présent. Parce qu'on sent que là, on fait face à une pathologie nouvelle du discours. Vous avez peut-être affronté le totalitarisme de la vérité avec un grand V. Mais là, on affronte un autre type de danger. Mais dans votre livre, bien sûr, vous construisez ces espaces du discours humain, critique, qui discute. Il y a la traduction, il y a... l'évaluation, vous dites, mais en un sens critique aussi. Il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la philosophie. Donc, au fond, on n'est pas désarmé entre ces deux dangers.
Je ne sais pas.
Vous êtes vraiment plus inquiète que je ne pensais, Barbara Cassin.
Parce oui, que... je suis...
Qu'est-ce
Frédéric Bourne, vous n'êtes pas inquiet?
Si, je suis très inquiet. Je pense qu'il y a une crise, mais ce qui m'importe grâce à vous, c'est de comprendre que cette crise est une crise non seulement des choses dans le réel, mais une crise du langage.
Et oui.
Il me semblait que ça permettait d'avoir prise sur cette crise.
Ça permet peut-être de moins se tromper en essayant de s'y frotter et de la soigner.
Voilà.
C'est plutôt ça. Hein, de la considérer au moins aussi comme une crise du langage. Le langage, nous sommes des êtres de langage et on a prise sur lui plus facilement que, enfin, parce que je ne suis pas économiste, plus facilement que sur le capitalisme sauvage.
Le capitalisme sauvage est lui-même un discours, d'ailleurs.
Donc aussi.
On peut aussi, donc, votre geste consiste aussi, Barbara Cassin, en nous ramenant au langage, en montrant que le langage fait notre crise, fait notre présent. Dire, voilà, le capitalisme sauvage, on peut regarder ses textes, on peut regarder ses mots. Souvent, il parle une langue réduite, d'ailleurs. Vous critiquez aussi beaucoup cette langue globalisée, cette langue réduite qui nous permet pas qui n'offre pas de prise, justement.
Oui.
C'est-à-dire, vous nous donnez des instruments critiques, quand même, dans tout votre travail.
Tant mieux si c'est vrai. Je ne suis pas, je ne suis pas sûre de savoir ce qui est en train de se passer. Je suis sûre de savoir qu'on est en grand risque. C'est vrai qu'il y a des choses intolérables. Et pour moi, l'une des choses les plus intolérables, c'est le sort fait aux migrants, par exemple. Ceux qu'on appelle ainsi.
Voilà.
Donc ça.
Le mot fait partie de l'intolérable.
Le mot fait partie de l'intolérable. Et je me suis promise de ne jamais parler publiquement sans en parler. Donc j'en parle. Voilà. C'est intolérable. Et on est comptable de ça. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer que quelque chose d'autre advienne? Le mélange de peur et de désir de consommer produit probablement le pire du populisme. C'est là que ça c'est ancré. C'est dans cette intersection entre la peur Et, le désir...
Une sorte de repli sur soi qui a deux formes, un rejet de l'autre et un repli sur sa consommation, sur un soi réduit à l'opposition à l'autre et à sa propre satisfaction, finalement.
Oui. Alors, ce mélange-là est vraiment toxique. Et à mon avis, c'est quand même le bon diagnostic par rapport à Trump, Bolsonaro ou ce qui arrive en général en Europe.
Quand vous dites comment est-ce qu'on fait pour affronter tout ça, justement, puisque le titre de votre livre, c'est « Quand dire, c'est vraiment faire », je pense que c'est d'abord en parlant et en utilisant toutes les ressources du langage. Et vous n'avez pas voulu me dire quelle était la chanson, je crois quand même qu'il y a des mots, pas seulement un morceau de musique, que vous avez apporté pour faire face au présent, Barbara Cassin. Donc c'est la surprise pour moi comme pour tout le monde.
L'homme me reproche d'avoir le culot de m'adresser directement au chef de l'État.
Pourquoi ?
Mais si un employeur ne peut pas parler à son employé chez lui, nous si on dit on est dans quoi? Jusqu'à preuve du contraire, il est là parce que nous l'avons souhaité.
C'est ça qui est ça.
Donc la pacpato de la présidence, la désert où le président va écouter son CD.
Tant qu'on y est là.
Bref, c'était une parenthèse avant tout propos.
Je vais choper moi.
Viens faire c'est ton petit pili pili, la voix du ghetto.
Tu m'as voulu, mais...
Excellence. J'ai voulu passer à la maison pour qu'on cause en famille, mais je n'ai jamais obtenu d'audience.
Je te jure, sans trop jaouli.
Alors je t'écris cette lettre pour te donner de nos nouvelles, ha. Et aussi avoir de tes nouvelles.
C'est moi, hein.
Est-ce que la famille va bien? Est-ce que les enfants vont bien?
Voilà.
Est-ce que notre gentille première dame va bien?
Il y a longtemps, ouais.
Président, je sais que toi ça va. Je t'ai vu à la télé, tu as pris du poids. Je sais que ça va, je suis content pour toi. Président, la dernière fois dans l'embouteillage, je sais pas si ils t'ont dit, hein, mais j'ai vu un cortège de véhicules 4x4 avec gyrophares, de pick-up et de chars. Voilà, et j'ai cru que c'était toi qui passais. C'est mon voisin dans le Wororo qui m'a dit que c'est pas toi, c'est ton gardien.
Ah bon?
Mais si ton gardien doit se promener avec toute la poudrière pour sa soi-disant sécurité.
Franchement quoi?
Je comprends pourquoi ce sont les Nations Unies qui assurent ta sécurité.
France Culture, matière à penser, Frédéric Borne.
Matière à penser, face au présent, une semaine un peu spéciale où chacun des animateurs de Matière à penser propose une rencontre pour affronter le présent. Ce soir, pour ma part, j'ai la chance de discuter avec Barbara Cassin du langage, de la parole humaine qui fait face au présent mais qui fabrique le présent. Barbara Cassin, vous nous avez apporté ce morceau intitulé, je crois, « Lettre au président ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vient d'entendre, Barbara Cassin, dans le langage humain?
Eh bien, nous venons d'entendre un rappeur de Côte d'Ivoire qui s'appelle Billy Billy et qui a déjà quelques années a écrit cette lettre à un président que je trouve extrêmement drôle parce que elle est immédiate. Je veux dire que au fond, un gilet jaune.
On va parler des gilets jaunes dans un instant. On
pourrait dire quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu vas bien? Est-ce que la famille va bien? Et dis-moi, pourquoi j'ai pas réussi à te voir? Parce que c'est quand même d'habitude un employé...
Il arrive à voir son patron.
Oui, le patron peut voir l'employé. Je crois que moi, je t'ai élu. C'est moi ton employeur.
Ah,
et
voilà.
C'est très drôle. Et ça va jusqu'à... Et qu'est-ce qui passe là dans cette voiture? Ah, c'est ton gardien qui est armé jusqu'aux dents? C'est ton gardien qui s'appelle Ben Allah, je crois? Enfin bon,
dans cette lettre-là,
non,
au président, vous
rigole,
l'avez prolongé.
Je galège. Mais vous voyez, c'est en plein dans le pire de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut voir.
C'est une réponse à ce pire ou bien c'est une production de ce pire, cette chanson elle-même, Barbara Cassin? C'est
les
aussi
deux.
Une façon de mettre en ironie. Vous défendez beaucoup l'ironie comme usage critique du langage
c'est une façon...
à côté de la vérité.
Absolument.
Et pas seulement... Mais alors, ça nous renvoie à plusieurs choses. Mais avant de venir à un modèle africain, justement, puisque vous nous introduisez aussi en Afrique, dans votre livre et depuis longtemps dans votre travail, il y a cette expérience de la commission Vérité et Réconciliation qu'on pourra rejoindre le grand débat en France actuellement qui est une réponse aux gilets jaunes. Mais juste un mot sur cette lettre au président encore, si vous me le permettez.
Oui.
C'est pas du tout le même style, par exemple, que Boris Vian. non. écrivant Le Déserteur, Monsieur le Président.
Non, alors, c'est pas le même style.
Chaque époque aussi a sa rhétorique ou sa, ou son performatif. Vous qui travaillez sur les actes de langage, Barbara Kass.
Chaque époque et chaque lieu. Là, c'est quand même, ça nous vient d'Afrique et ça nous vient avec ce type d'ironie africaine, même par rapport au langage, au langage, au français. Si je peux me permettre.
Oui, comme aussi retour à l'envoyeur de la, d'une francophonie ironique.
Oui, mais retour dont nous ne bénéficierons pas longtemps si, si je peux me permettre de mettre les choses dans un débat contemporain aussi.
Bien sûr,
mettez
les pieds dans tous les plats
dans
que vous voulez.
Dans tous les plats, l'un des plats, c'est quand même l'augmentation des droits pour les étudiants étrangers. À savoir, les étudiants
dans les universités françaises,
dans les universités
un projet
françaises,
du gouvernement.
Multiplié par 10, au moins, je crois, plus que ça encore, et qui frappera de plein fouet les étudiants francophones, non européens, donc l'Afrique francophone, c'est-à-dire Bilibili.
Donc je vois que vous faites cet usage du langage qu'il faut faire, effectivement, qui sert aussi à dire les choses, à discuter, à entrer dans le débat. C'est un débat que je trouve aussi majeur, mais je vais me permettre de revenir à l'essence même de ce qu'est un débat entre les hommes sur l'Afrique, sans minimiser ce dont vous venez de parler. Donc vous avez suivi de très près, et même un peu plus, dans les années 1990, le travail en Afrique du Sud de la commission Vérité et Réconciliation.
Oui.
On parlait tout à l'heure de la vérité, du mensonge, des critères pour le langage humain. Dans votre chapitre consacré à cette commission, vous dites au fond, vous analysez le nom même, vous dites ce nom même, vérité et réconciliation, je vous cite, suffit à nous faire prendre conscience que si la vérité la définit, c'est cependant la réconciliation qui est le but, la conséquence de la vérité.
Oui.
Au fond, ce que vous dites, vous ne critiquez pas la vérité, Barbara Cassin, vous dites juste que la vérité doit être prise dans des actes qui ont des normes.
Elle sert à quelque chose.
Et pourquoi comment est-ce qu'on distingue une bonne vérité d'une mauvaise, ou un bon usage de la vérité d'un mauvais ?
Eh bien, je vais peut-être aller un tout petit peu plus descriptivement dans le rapport à la vérité et à l'intérieur de cette commission. Desmond Tutu dit que ce qu'il cherche, ça n'est pas la vérité historique, ça n'est pas non plus la vérité du jugement du judiciaire. Ça n'a rien à voir avec la vérité philosophique, même s'il faut quelque chose qu'on peut appeler, au fond d'un nom un peu heideggerien, full disclosure, c'est-à-dire déclosion de la vérité.
L'essence de la chose,
voilà.
Ouais, quand même.
Dévoilement
complet. Dévoilement de ce qui s'est passé.
Eh bien, il dit ce qu'il nous faut, c'est assez de vérité pour.
Pour
construire le peuple arc-en-ciel, pour faire en sorte que la nouvelle nation d'Afrique du Sud puisse exister. Donc, en fait, ça se détermine de la manière suivante. Assez de vérité pour construire un passé commun sur lequel nous allons pouvoir...
S'il n'y a pas du tout de vérité, on est dans le déni, une société ne peut pas se construire. Mais si on s'en tient à la vérité toute seule, et pour elle-même, on risque aussi de ne plus rien pouvoir construire. Vous citez juste après Hannah Arendt, qui dit, à propos d'une romancière également...
Karen Blixen.
D'Afrique du Sud, « Tous les chagrins peuvent être supportés si on les transforme en histoire, si on raconte une histoire sur eux. » Et donc il y a la vérité, mais il faut aussi lui donner un sens qui va au-delà de la vérité.
Oui, c'est Karen Blixen et Isaac Dinsen qui avaient vécu en Afrique. Mais c'est surtout ce qu'elle dit, c'est que les choses n'existent et au fond ne sont réconciliables que via le récit. Que les choses brutes, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, là, on est devant du non réconciliable. Alors que si on en parle et si on les dit... Et si on les raconte, si vous voulez, c'est le bon côté du storytelling. Hein.
Voilà, qui peut nous entraîner vers le mensonge et le fake.
Absolument.
Mais qui peut aussi donner sens à la vie
humaine. Donner corps aux rapports humains.
C'est arrivé à quelqu'un, c'est qu'il a vécu comme
telle date,
telle façon.
À tel moment. Et voilà ce qu'on en sait, et voilà ce qu'on peut en dire, et voilà ce qu'on peut en ressentir.
Alors, Barbara Cassin, on parlait face au présent, revenons même si c'est pas le seul, évidemment, au contexte français, en janvier 2019, le présent qui est le nôtre, c'est ça aussi le présent, c'est ce qui est là, qui affecte nos corps, là où nous sommes situés.
Oui.
On a parlé tout à l'heure de la crise du langage, au fond, dans le discours politique. Il y a aussi une demande de langage dans les manifestations, y compris des gilets jaunes, même si on fait référence
Absolument.
À des symboles qui ne sont pas des mots là, dans leurs vêtements. Est-ce que, pour vous, le fait que le gouvernement ait proposé un débat pour répondre à ces expressions, est-ce que, pour vous, ça révèle quelque chose en soi ? C'est-à-dire que le langage est la ressource pour répondre, même sans même entrer dans le contenu du débat pour l'instant. Est-ce qu'il va suffire ? Est-ce qu'il va marcher ? Mais le fait qu'on ait proposé un débat.
Il est certain que la démocratie, ça a toujours consisté en un échange de mots, en un échange d'arguments, en un échange de paroles. Depuis les Grecs, c'est comme ça que ça se définit.
Oui, c'est pas un aspect secondaire de la démocratie.
Pas du tout. Lisez Goria, l'égalité de parole, c'est ce qui constitue la démocratie athénienne. Bon. Et il faut que... C'est même ce qui constitue la possibilité d'être gouvernant-gouverné. Mmh. C'est se parler et échanger les positions de parole.
C'est-à-dire gouvernant-gouverné par opposition à maître et esclave.
Absolument.
C'est-à-dire c'est dans un gouvernement, même s'il y a une dissymétrie inévitable, il y a une égalité de parole.
Il y a une égalité de parole et cette égalité de parole produit une symétrie virtuelle. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en démocratie participative, n'importe quel gouverné ne sera pas gouvernant. Alors qu'en Grèce, à Athènes, dans cette démocratie hyper restreinte, constituée, d'hommes libres, alors qu'il y avait des esclaves,
des femmes,
des métèques, etc. Voilà. Bon, dans cette démocratie minuscule, eh bien, les positions étaient de droit et même de fait interchangeables. Mmh. Et la preuve était le tirage au sort pour un certain
pour
nombre
fonctions,
de magistratures, de fonctions. Bon, c'est très intéressant.
Oui.
Quand aujourd'hui on remet à l'honneur la possibilité d'un tirage au sort, comme dans les jugements, enfin bon, c'est très intéressant.
Oui, comme pour faire partie des jurés d'assises, on discute beaucoup aujourd'hui pour certaines fonctions de tirer au sort, et non pas de voter par opposition au vote,
Comme mode de désignation, pour faire en sorte aussi, pas seulement par opposition au vote, mais par opposition au désir de pouvoir. C'est-à-dire que d'une
même
certaine
on espère
manière,
que celui qui va être choisi ne le veut pas.
Voilà.
Ce serait encore mieux.
Ah oui.
Quelqu'un qui ne veut
il
pas.
Il va s'y coller.
Voilà, il va s'y coller. Mais alors, Barbara Cassin, est-ce que vous faites confiance au débat, quelle que soit sa forme ? Est-ce que le fait que cette proposition est un écho, ça paraît répondre à quelque chose de très profond, mais est-ce qu'il n'y a pas des conditions pour qu'il n'y ait pas un trop grand écart entre ces mouvements qui se sont désignés par des symboles physiques, même s'il y a eu beaucoup de paroles échangées entre les gilets jaunes, et puis autour d'eux, beaucoup de discours qui cherchent à dire ce que c'est, une guerre des discours.
Oui.
À quelles conditions le débat peut-il reprendre et répondre ?
À quelles conditions, Frédéric Worms, peut-être la question c'est à quelles conditions peut-il y avoir un débat ?
Un débat.
Parce qu'il y a un grand débat, c'est-à-dire un grand machin, et puis il y a des prestations quasi théâtrales de la part du président de la République qui sont par ailleurs extrêmement intéressantes et importantes. Mais bon, d'une certaine manière, encore en décalage. Mmh. Donc, comment est-ce que l'ensemble des discours va pouvoir se croiser et se rejoindre ? C'est ça, au fond, la scène difficile à constituer. Et peut-être que là, la Commission Vérité et Réconciliation avait travaillé cette scénographie.
Elle avait inventé
une vraie scénographie. C'est-à-dire qu'il y avait, sur la même scène, les perpetrators, les meurtriers, les souffrants et les victimes. Et ils échangeaient des paroles. Et ils s'entreparlaient avec, évidemment, en même temps, des témoins qui étaient non pas des juges, mais des commissaires, des commissionnaires.
Finalement, il s'agissait d'inventer une scène qui ne soit ni un tribunal, il y a des tribunaux, mais la commission n'en était pas un, ni un café du commerce,
voilà.
Ce serait horrible aussi.
Voilà.
Il y avait une fonction même au-delà du tribunal, une fonction politique, juridique mais autre que le judiciaire.
Et même psychanalytique, puisque Desmond Tutu disait, c'est la psychanalyse à l'échelle d'un pays. Mais c'est vrai, sauf qu'en psychanalyse, il y a un analyste et un analysant, ou un analysant et analysé, et bon, en général, il y en a un qui ne parle pas beaucoup. Tandis que là, il s'agissait véritablement.
Il y avait quand même des coupables et des victimes, la dimension morale et politique était quand
compliqué.
Même là.
Compliqué, on ne mélange pas la morale et la politique déjà,
mais en même temps,
et on
ne
la mélangeait pas là. On la mélangeait pas là, on demandait pas, c'était une amnistie, hein, et ce n'était pas un pardon.
Alors, vous disiez tout à l'heure, vous mettiez entre guillemets le grand débat. Mmh. Est-ce qu'en effet, Barbara Cassin, pour citer un auteur que vous avez beaucoup travaillé aussi, qui vous a accompagné, Jacques Derrida, qui disait toujours, et vous l'avez repris, il faut plus d'une langue. Et vous-même, oui. Vous vous dites philosopher en langue au pluriel, vous dites entre les langues, la traduction. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'un débat? Est-ce qu'il ne faudrait pas des débats sur des lieux de travail, sur des lieux d'enseignement, sur des sujets concrets? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il donne quelque chose de concret, que fasse émerger les vrais, est-ce qu'on peut dire les vrais problèmes? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des discours qui manipulent les gilets jaunes et le débat? Est-ce qu'on peut dire que l'espoir qu'on doit avoir, c'est que les vrais problèmes apparaissent?
Je crois qu'ils sont sur la table, les vrais problèmes.
Tout de suite? Avant même le débat?
Pas avant, mais là, ces derniers temps, il s'est passé des mises en lumière. D'abord, des mises en lumière de décalage. Pour moi, ça, c'est très important. Mmh. Je reviens toujours à cette phrase qui m'a beaucoup frappée. Vous nous parlez de fin du monde, là. Nous, on vous parle de fin de mois. Bon, voilà. Travaillons ça.
Oui, la surprise que beaucoup ont ressenti face à cette phrase comme révélation. Finalement.
Mais oui, pour moi...
Avec un effet de révélation.
C'est une phrase qui fait. Qui
fait époque, qui fait événement.
Qui fait événement, qui fait époque et qui nous oblige à juger. Mm-hmm. À juger, et probablement à juger un peu autrement. C'est-à-dire que... Et elle nous oblige surtout à penser. C'est-à-dire qu'il faut maintenir simultanément l'exigence de... parer à la fin du monde et l'exigence de remplir la fin du mois.
Mais alors, Barbara Cassin, vous analysez cette phrase, vous en tirez un horizon, en effet, politique, avec ces tensions. Mais il y a quand même autour de ces phrases même, et autour de ces faits, il y a des discours qui veulent donner un sens, qui cherchent à inscrire. La parole humaine n'est pas totalement pacifique ni constructive. Les vrais problèmes sont aussi déformés. Comment est-ce qu'on fait pour aussi affronter ce champ de bataille?
Je ne sais pas. On essaye de le décrire. C'est-à-dire, si on le décrit déjà le mieux possible, on voit qu'il y a des discours, pour dire les choses très simplement, il y a des discours plutôt bruns qui s'emparent de gilets plutôt jaunes. Bon, et bien, on essaye de le montrer et on le comprend. Mmh. Et ça se dit et ça se montre. Donc voilà, ça c'est une chose très importante, évidemment. Mais il n'y a pas que ça.
Ce que je veux dire, c'est que les discours de certaines couleurs construisent des problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour que les débats opposent des problèmes à problèmes? C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas de problème, parce que ce n'est pas juste des récupérations anodines. Ils disent, voilà, le problème, c'est, par exemple, certains disent que le problème, c'est la démocratie. Ou que la France n'est plus du tout une démocratie? Est-ce qu'on n'a pas envie de répondre en disant le problème c'est de construire plus de démocratie ou autrement la démocratie? Et comment est-ce qu'on va construire un cadre pour que tout ça s'oriente, je dirais, par ce que vous appelez le bonheur performatif et non pas le malheur.
Le bonheur, c'est-à-dire l'efficience aussi. Hein.
Oui, c'est un peu normatif le bonheur quand même, Barbara.
Oui, mais happiness en l'occurrence chez Austin, ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire qu'en effet, la séance est ouverte parce que celui qui a dit la séance est ouverte était bien celui qui pouvait le prononcer avec l'autorité nécessaire.
Mais alors c'est intéressant, Barbara Cassin, parce que ça rejoint une question vraiment que je voulais vous poser. Vous citez en effet John Austin, l'inventeur de la théorie des actes de langage.
Oui.
Et il appelle bonheur du langage le fait simplement qu'il marche. Voilà. Mais en même temps, c'est bonheur quand même. Oui. Et un langage qui marcherait, mais en faisant notre malheur, au fond. Est-ce que finalement, le critère n'est-il pas quand même entre bonheur et malheur, entre un effet créateur positif ou un effet destructeur? Est-ce que c'est pas ça, finalement, le critère ultime, qui n'est pas forcément la vérité, mais plutôt la vie et la mort?
Oui. Tout ça va un peu vite pour moi.
Il y a un peu trop de majuscules pour
moi. Oui, il y a un peu trop de majuscules pour moi.
Je sens que vous tiquez devant les majuscules, la vie, mort, création,
et
destruction.
Et même bonheur,
mais
malheur.
Bonheur, mais bonheur, vous l'avez repris quand même.
Non, mais dans ce sens très précis.
En un sens qui est, dégonflé, en
oui,
un sens un peu diminué.
Absolument. C'est un discours qui a marché.
Mais le discours du Troisième Reich aussi a marché pendant un certain temps.
Mais j'en suis bien consciente. Je veux dire, c'est pour ça que je me méfie beaucoup du performatif pur ou de la rhétorique pure et que je dis que rien. Alors là, c'est et en même temps, je n'ai à opposer à ça que la gentillesse d'Anna Arendt qui dit attention, jugez. Hein, c'est côté la maman vous dit que bah oui, allez-y.
Allez-y parler, mais faites attention.
Faites surtout.
Faites attention, jugez. Mais est-ce que quelle va être la norme du jugement? Est-ce que ça ne reste pas quand même ne détruisez pas l'espace au moins de la parole, ce qu'Anna Arendt appelait le monde, l'espace public, l'espace
public.
Politique. Mais l'espace... Là, nous sommes autour d'une table de micro.
Oui, mais l'espace public, il a une condition assez simple. Hein. C'est la diversité des hommes. Donc, on va pas le détruire comme ça. La diversité des hommes, la diversité des... Moi, j'ajoute la diversité des langues, mais Anna Arendt dit ça aussi. La chancelante équivocité du monde. Bon, cette formule est magnifique. Donc, ne détruisons pas la chancelante équivocité du monde, et peut-être bien qu'elle ne se... que c'est ce qui résiste le mieux. La chancelante équivocité du monde.
Bon, elle est quand même attaquée d'un peu partout. Il y a beaucoup de menaces sur cet espace public, justement. Beaucoup de tendances, de tentations de rendre ce bonheur de langage impossible.
Il y a beaucoup de lieux où il y a autre chose qui se profile que la possibilité de parler. Je dirais que pour moi, on ne parle pas sous Bolsonaro. D'ailleurs, on se fait dénoncer quand on dit certaines choses.
La peur de parler va revenir au Brésil, c'est ça que vous êtes en train de dire. Elle est déjà revenue.
Elle est là,
au moment où nous parlons.
Elle est absolument inscrite dans la manière de, ben, je ne sais pas, de faire un cours, puisque on demande aux étudiants de dénoncer leurs profs.
Ça y est, c'est revenu.
C'est fait.
Cette peur de parler est quand même un critère clair, même si effectivement il n'est pas du côté de la vie et de la mort, peut-être directement.
Oui.
Il y a quand même néanmoins des conditions, et face à un Tutu, Desmond Tutu, qui crée des conditions pour une parole justement adaptée à son but de réconciliation.
Oui.
Il y a d'autres espaces où l'espace de la parole est lui-même menacé.
Enfin, il est menacé et adapté à son but de comment dire de mettre au pas et de mettre en silence un certain nombre de désirs, de volontés, de soucis et de pensées.
Et finalement, dans les Gilets jaunes, Barbara Cassin, vous verriez plutôt la demande, je dirais même pas l'espoir, mais la demande qu'un espace de parole s'ouvre. Et il faut à ce moment-là lutter contre les discours qui voudraient au contraire se saisir de cette demande pour interdire la parole.
Oui, ou pour en faire de la toute faite.
Toute faite.
Oui, la parole toute faite. Bon, et ça, c'est peut-être ce qui menace le plus. C'est ce qui menace le plus dans une grande démocratie. Je veux dire, la taille, ça compte aussi. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait pour organiser des états généraux
oui.
D'un pays de X millions d'habitants? Compliqué.
Mais en même temps, il y a des secteurs dans la santé, on peut faire surgir les problèmes de démocratie sanitaire.
Oui, on a tous...
Voilà,
on
chacun
a
son travail, chacun est acteur là où il est.
On a tous des idées très précises sur ce qui ne va pas et ce qui pourrait s'améliorer. Est-ce qu'on va réussir à les faire passer? Je n'en suis pas sûre, mais on va essayer.
Mais on a besoin de philosophes, philologues, traducteurs, poètes, rhéteurs. Comment est-ce que vous vous définiriez, Barbara Cassin, pour aider à tout ça, votre pratique de docteur du langage? Est-ce qu'elle a une clinique particulière? Est-ce qu'elle a une spécialité où elle est, vous êtes une généraliste du langage?
Oh là là, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui peut rester au ras des mots très longtemps. Je reste dans le... Nietzsche parlait de l'acribie d'une limace myope. Moi, ça me va très bien, ça. Je suis aussi l'acribie d'une limace myope.
C'est indispensable, Barbara Cassin. Merci de rester comme ça.
Merci, Frédéric Worms.
Matière à penser face au présent. Ce soir, la première rencontre d'une semaine inédite dans notre série des matières à penser. J'avais le plaisir de recevoir Barbara Cassin, grâce aussi à Colin Gruel, Bernard Lagnel, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain avec René Friedman qui recevra Agnès Buzyn, ministre de la Santé.